Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, tout d'abord le football, l'événement de la soirée. Rennes pour une place en quart de finale. Mais qu'est-ce que c'est dur en match retour de la Ligue Europa face à Arsenal, Nicolas Georgiou.
Oh oui que c'est dur, 2-0 le score à l'avantage d'Arsenal à la pause. Première période très compliquée pour les Rennais, scénario catastrophe. Deux buts encaissés dans le premier quart d'heure, signé Aubameyang et Maitland-Niles. C'est un score qui qualifie pour l'instant Arsenal pour les quarts de finale. Ouais. Et donc Rennes n'a pas existé techniquement et dans les duels et devra marquer en seconde période. Ouais, 2-0 à la pause.
C'est vrai qu'il y a eu 3 buts à 1, faut-il le rappeler encore une fois. Au match aller, le point sur le risque de marée noire au large de nos côtes françaises, nos côtes atlantiques, après le naufrage du Grande America, dossier complet dès le début de ce journal. Et puis sur la route du grand débat, à la veille des toutes dernières consultations, nous reviendrons dès la fin de ce journal également sur cette journée passée avec vous, oui, la première radio de France à Soissons. La météo temps de saison pour demain, attention avec des chutes de neige, hein, tout de même en montagne, soyez prudents. On n'oublie pas les rendez-vous, 22h20, votre magazine de l'écho, juste avant, comme chaque soir, de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Et la course contre la montre pour limiter les dégâts a donc commencé. Dégâts consécutifs au naufrage du cargo, le Grande America, au large de nos côtes atlantiques. Le point ce soir avec vous sur l'évolution de la situation, Patrice Gabart.
Oui, deux nappes d'hydrocarbures distantes de 20 km l'une de l'autre, repérées par avion et les observations satellites. Des nappes de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, le capitaine de frégate, Riaz Akoun, porte-parole du préfet maritime de l'Atlantique.
L'une a une longueur de 13 km et une largeur de 7 km. Elle présente un aspect assez compact. La seconde est d'une longueur de 9 km et d'une largeur de 7 km. Elle a un aspect un peu plus morcelé.
Ces nappes évoluent plein est, donc toujours en direction des côtes de Nouvelle-Aquitaine, mais la progression est plus lente que prévu, 35 km par jour, ce qui laisse au moins une semaine, voire 10 jours avant une éventuelle pollution des plages. D'ici là, 5 navires anti-pollution vont entrer en action. François Durugy, le ministre de la Transition écologique.
Nous déployons les moyens de lutte anti-pollution en mer pour procéder autant que possible au pompage des résidus donc de fioul lourd qui était donc le fioul de propulsion des moteurs du Grande America.
Les conditions météo restent très difficiles avec des creux de plus de 4 mètres, mais une accalmie dans les jours qui viennent devrait faciliter et accélérer les opérations de dépollution.
Patrice Gabart, correspondant Grand Ouest pour RTL Day. Dans 10 minutes, nous recevrons la porte-parole de l'association Surfrider, Antidia Citores, pour évaluer avec elle les dangers et envisager les solutions à court, moyen et long terme. La défense des océans, la protection de l'environnement, la santé de notre planète et une jeune génération qui se bouge pour faire évoluer les choses, comme d'ailleurs certaines associations qui ont apostrophé jusqu'au sommet de nos institutions aujourd'hui, en portant plainte carrément contre l'État. Une suite judiciaire que n'a pas apprécié, mais pas du tout, Emmanuel Macron en déplacement en Afrique.
Je pense sincèrement que cette plainte, je leur ai dit, moi j'ai reçu hein, ceux qui ont lancé ça, je pense très sincèrement que j'en vois pas les tenants, les aboutissants, c'est un débouché judiciaire, et c'est pas là que ça se joue d'ailleurs, moi j'achète pas cet esprit si je puis dire. La solution elle est en nous tous, hein. C'est pas le peuple contre le gouvernement sur ces sujets-là, faut arrêter ces bêtises. Hein. Les postures, elles ne m'intéressent pas. Je ne fais partie ni des gens qui pensent qu'il faut continuer, ni des gens qui pensent que le gouvernement a toujours tort par définition, ou qu'on est déjà fichu et que la planète va brûler. Ça fait 20 ans qu'on l'a dit ça, c'est fini cette affaire. Maintenant, faut agir.
Agir, propos présidentiels recueillis à Nairobi au Kenya par Olivier Bost, service politique d'RTL. Agir justement, c'est bien ce que comptent faire les jeunes du monde entier, décidés à sécher les cours demain pour une grande marche mondiale pour le climat. Comme à Marseille, qui se prépare pour la première fois d'ailleurs, hein, ce vendredi 15 donc, à rejoindre le mouvement Hugo.
Oui, c'est ça, des lycéens conscients de l'urgence climatique. Comme l'UNEL en terminale scientifique, c'est l'une des organisatrices de la marche de demain.
C'est important de se mobiliser parce que, en fait, on est tous concernés par le climat et qu'on vit tous sur la planète. Donc, un jour ou un autre, ça va forcément nous toucher. C'est un mouvement mondial. C'est pas seulement juste quelques lycéens et étudiants en France qui se disent bon, bah, on va faire grève pour ça. C'est vraiment quelque chose qui va être énorme.
Toute la semaine, elle a tenté de motiver les autres élèves du lycée Saint-Charles. Mission difficile, car certains craignent de sécher les cours comme l'explique Lou Corto.
J'ai pas peur de sanctions, effectivement, on est dans un lycée public, on risque pas grand-chose en séchant les cours une demi-journée. Je sais qu'il y a des étudiants pour qui c'est plus compliqué, potentiellement des prépas qui vont pas pouvoir venir, des étudiants qui ont peur que leur bourse saute et qui, eux, pour le coup, prennent plus de risques que nous.
Confidence de lycéens, commencer à sauver le monde, ça vaut bien quelques heures de colle.
Oui, Guamelin, à Marseille pour RTL.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Paco.
Et une nouvelle affaire qui va secouer le monde hospitalier en France. Une affaire qui rappelle malheureusement celle de l'hôpital Lariboisière à Paris. On s'en souvient, une patiente avait été retrouvée morte sur un brancard après une série d'incroyables dysfonctionnements. Cette fois, à Roubaix, c'est un homme de 57 ans qui a été retrouvé inconscient dans une pièce supposée condamnée, Antoine Decarne. Et ce, après 24 heures de recherche.
C'était le 4 mars. Le patient, un nordiste de 57 ans, avait appelé le SAMU en raison de forts maux de tête avant d'être conduit aux urgences de l'hôpital Victor Provost de Roubaix. Vers 11h, il avait ensuite disparu, selon l'hôpital, sans attendre les résultats de ses examens. Et c'est uniquement le lendemain qu'il a été retrouvé inanimé dans une pièce vide et en travaux par le personnel soignant. Les deux fils du patient, qui attendaient leur père chez lui, ont passé une nuit à le chercher partout avant d'être rappelés par l'hôpital. Ils veulent comprendre aujourd'hui comment leur père a pu disparaître pendant 24 heures alors qu'il se trouvait au sein même des urgences à quelques mètres de l'accueil. Ils ont porté plainte contre l'hôpital Victor Provost de Roubaix pour mise en danger de la vie d'autrui. Leur père, lui, est toujours dans le coma dans un hôpital de Lille où il a été transféré.
Antoine Decarne pour RTL à Roubaix. La cour d'appel de Paris a décidé de maintenir les deux mises en examen de Tariq Ramadan pour viol, estimant que cette requête était prématuré. À noter aujourd'hui encore l'ouverture du procès de Laurent Dejean, accusé du meurtre d'une joggeuse de Boulogne et à Boulogne il y a 8 ans, qui n'a jamais avoué les faits après avoir été pourtant identifié par plusieurs témoins. Dans l'univers carcéral, on se félicite ce soir de la décision de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, d'imposer une fouille systématique des visiteurs à la prison de Condé-sur-Sarthe, là où des gardiens avaient été attaqués le 5 mars dernier au cœur de l'établissement. Et depuis cette attaque considérée comme terroriste, les surveillants pénitentiaires avait décidé Alice Moreno de se mettre en grève.
Effectivement, une annonce plutôt bien accueillie par les syndicats, car aujourd'hui, les palpations sont loin d'être systématiques. À Condé-sur-Sarthe, par exemple, les visiteurs sont souvent soumis au seul passage sous le portique de sécurité, portique qui ne détecte pas un couteau en céramique ou des explosifs. La palpation n'était jusqu'alors envisagée que dans certains cas, soit si le visiteur déclenche l'alarme du portique à 3 reprises, soit si le chef d'établissement juge que ce visiteur représente un risque. Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat FO Pénitentiaire, salue donc l'idée de ces fouilles systématiques.
Nous, on y est plus que favorable, et je vous dis, pour le généraliser, j'espère que l'administration va réellement aller jusqu'au bout, car il faut palper des visiteurs, ça va créer forcément des tensions, à la fois avec les familles, à la fois avec les détenus. Ça va aussi créer, à mon avis, une levée de bouclier de beaucoup d'associations type OIP, etc.
Outre ces tensions, les syndicats soulèvent aussi un problème de moyens. Si à Condé, le nombre de visiteurs demeure relativement raisonnable, de l'ordre d'une 20aine de familles par jour, la mesure semble beaucoup plus délicate à mettre en place dans des prisons plus importantes. À Fleury-Mérogis, par exemple, il y aurait plus d'une 100aine de visiteurs toutes les heures.
Alice Moreno, service police-justice de la première radio de France. Et puis ce sont des enquêteurs français de l'aéronautique qui ont donc récupéré aujourd'hui les boîtes noires du Boeing 737 MAX qui s'est écrasé dimanche dernier en Éthiopie. On évoquera dans le Chronique Écho tout à l'heure, dans un instant, hein, dans 5 minutes maintenant, le dossier indemnité avec ces avions nouvelle génération cloués au sol dans l'attente des conclusions des spécialistes. On reste 2 secondes en Amérique avec aux États-Unis donc Donald Trump qui a mis son veto pour la première fois depuis le début de son mandat. Le président américain qui vient de répliquer au Congrès qui refuse évidemment une fois de plus le financement d'urgence du mur, le fameux mur à la frontière avec le Mexique. L'Angleterre, le Royaume-Uni et le Brexit avec une certitude hein, déjà ce soir. La certitude, la première, c'est qu'il n'y aura pas de deuxième référendum, mais on va s'intéresser à la deuxième grande décision du soir qu'on attendait. Marie Billon, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Les députés britanniques ont donc voté pour un report du Brexit, mais ça n'a pas l'air si simple.
Eh ben oui, parce que rien n'est facile au pays du Brexit. Alors c'est vrai, donc ce soir, les députés ont voté pour reporter la date de sortie, mais Theresa May avait inséré une condition de taille. Elle ne demandera un report que si son deal est voté d'ici à mercredi prochain. Oui, le fameux deal qui a déjà été rejeté 2 fois au Parlement massivement. Alors, soyons clairs, hein, si par miracle, l'accord est voté la semaine prochaine, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, alors pas le 29 mars comme prévu, mais le 30 juin. Si par contre le texte est à nouveau rejeté, il reste 2 options. D'abord, d'accord, une sortie sans accord le 29 mars. Oui, parce que c'est toujours possible, hein, malgré le vote d'hier soir. Et la seule manière d'éviter ça, en fait, c'est la deuxième option. Que Theresa May demande à Bruxelles un long report de la date du Brexit. On parle de plusieurs mois, voire à plus d'un an. Si les Européens acceptent, eh bien, rien n'interdit pendant cette prolongation la tenue d'un second référendum. Oui, parce qu'en fait, finalement, malgré le vote de ce soir, c'est toujours possible. Et donc, une annulation du Brexit est aussi toujours possible. Et justement, c'est peut-être même cette possibilité-là qui convaincra les eurosceptiques d'enfin voter pour le texte de mai. Ce serait pour, selon eux, sauver le Brexit.
Le Brexit, encore et toujours. Merci à vous, Marie Billon, en duplex de Londres. On va rester justement, tiens, dans cette belle capitale londonienne, tout de même, pour retrouver Nicolas Georgerot. Oui, qui espère, comme beaucoup, un exploit des Rennais. On rappelle qu'au match aller, il y avait eu 3-1, c'est bien ça, Nicolas ?
Exactement, ça leur irait, hein, le Brexit pour les Rennais, faire sortir cette équipe de la scène européenne, mais pour l'instant ça n'en prend pas le chemin parce qu'ils sont toujours menés 2-0 les Rennais. C'est reparti depuis 5 minutes en seconde période, début anglais signé Aubameyang et Maitland-Niles en première période dans le premier quart d'heure. Les Rennais ont donné le coup d'envoi il y a donc quelques instants de cette seconde période. On a senti un petit peu plus de volonté offensive et Niang a même trouvé le poteau sur l'une des premières actions, mais il faudra jouer plus juste techniquement que ce qu'on a vu sur les 45 premières minutes pour mettre en danger l'équipe d'Unai Emery. 2-0 pour l'instant donc pour Arsenal, qui est qualifié pour les quarts de finale grâce à ce score face à Rennes.
Ouais, requalifié déjà, hein, ça c'est acté. Naples en quart de finale, tout comme Chelsea avec un triplé de notre ami Olivier Giroud. Bah tiens, justement, comme on parle de l'équipe de France, pas de surprise pour la liste des Bleus dévoilée ce midi par le sélectionneur national pour les deux prochaines rencontres de l'année. Les deux prochaines rencontres qui seront les premières rencontres d'ailleurs de l'année 2019, si ce n'est quand même des retours. Retour par exemple de Coman, retour également de Kurzawa ou de Kurzuma pour se mesurer à la Moldavie et à l'Islande. Match programmé les 22 et 25 mars prochains. Et puis dans le cadre de nos entretiens privilèges, M6 RTL, Didier Deschamps, le sélectionneur, après avoir rappelé que la star Kylian Mbappé pouvait choisir n'importe quel club, mais qu'il appartenait tout de même à un grand club. Évidemment, on a parlé du Real de Madrid avec Philippe Sanfourche lors de cet entretien privé. Eh bien, Didier Deschamps est revenu sur la défaite, la déroute du Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions. Et on s'intéresse au message délivré juste après cette défaite par le défenseur parisien, défenseur de l'équipe de France également, Presnel Kimpembe, qui évoquait comme raison du fiasco de la suffisance de la part des joueurs du PSG. Écoutez Guy Deschamps sur ce sujet.
Il y en a certains, par rapport à ces déclarations, qui vont dire non, ça se fait pas. Il y en a d'autres qui vont dire oui. Alors tout dépend comment on analyse la chose. Après, les joueurs, ils sont libres de s'exprimer, de redire le fond de la pensée ou pas. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Si personne ne dit rien, vous ne serez pas très content. Si vous avez que des gens qui vous disent des choses platoniques, ça ne vous plairait pas. Donc ça fait partie de sa personnalité, de son caractère. Je ne suis pas en train de dire qu'il a bien fait. Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il fallait dire ces mots-là? C'est à lui, mais ça fait partie des discussions que je peux avoir avec lui, avec d'autres joueurs aussi. Je ne vais pas m'épancher dans les médias par rapport à ça, mais c'est pas donner un conseil, c'est surtout un avis par rapport à la situation. Je sais pas comment ça a été ressenti en interne par rapport à ses partenaires. La seule chose que je peux dire, c'est que le match d'après, son entraîneur lui fait confiance sur le match qui suit. Et il a répondu aux attentes de son entraîneur.
Entretien exclusif pour M6 RTL, signé Philippe Sanfourche. La météo, c'était avec vous, Patricia Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir à tous. Demain, le temps sera encore très gris et très humide sur une bonne partie du pays avec cette perturbation très active qui a donné des pluies soutenues et qui va encore donner des pluies assez marquées demain tout au long de la journée près des frontières de l'Est et de fortes chutes de neige attendues sur les Alpes du Nord avec en plus de fortes rafales de vent. Le manteau neigeux sera très instable. Donc attention, le risque d'avalanche serait très marqué demain de 4 sur 5. Le temps sera quand même plus calme et plus ensoleillé entre les Pyrénées et la Méditerranée avec des températures comprises entre 6 et 11 degrés demain matin, avec 6 degrés à Strasbourg et 11 degrés de maximum à Paris et La Rochelle. Et on attend de 11 à 21 degrés pour demain après-midi. 11 degrés à Aurillac, 15 à Bordeaux, Biarritz et Paris, 16 à Lyon, 18 à Bastia et 21 degrés à Toulon.
Merci mille fois Patricia Charbonnier. Encore attention, attention évidemment si vous vous rendez à la montagne.